avec Nathalie Barche.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Le monde au féminin.
Hey you, over there. Please don't waste my time with that stare. Don't be looking, this piece is rare. I'm too cool for school, I know it's not fair.
Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue à l'écoute de l'émission hebdomadaire de VOA Afrique, Le monde au féminin.
Parole de femme.
Espérance Belao, vous êtes présidente du conseil d'administration du MC2 Moufa RDC, qui est la mutuelle financière des femmes africaines. Vous êtes femme d'entreprise, vous êtes syndicaliste et vous êtes responsable de bien d'autres structures qui encadrent les femmes. Merci beaucoup d'être avec nous.
Merci beaucoup pour votre invitation aussi.
Pourriez-vous nous dire également quels sont les autres postes que vous occupez, parce que c'est d'un grand intérêt pour les questions féminines, effectivement.
Comme vous l'avez dit, je suis président de conseil d'administration de la fédération MC2 MIFA RDC. Le MCD, c'est le mutuel de croissance communautaire, et le MIFA, mutuelle financière de femmes africaines, qui sont des micro-banques de proximité. En même temps, je suis chef d'entreprise. Mon groupe s'appelle Groupe Belpes SARL. J'œuvre dans les secteurs agroalimentaires. Nous produisons le riz local, le riz blanc, la farine de manioc et la semoule de maïs. En même temps, je suis administrateur à la Fédération des entreprises du Congo, FEC, qui est le plus grand patronat syndical de la RDC. Au sein de la fédération, je suis la première vice-présidente de la Commission nationale de femmes entrepreneurs et la première vice-présidente de la Commission agriculture et forêt de notre fédération. Entre-temps, je suis aussi coach, formatrice d'un grand programme qui est sur l'entrepreneuriat féminin, qui est le programme Access de l'IPC, Institut international de financier basé à Genève. Voilà en bref qui je suis.
Alors, dans un premier temps, Espérance Belao, en République démocratique du Congo, comment l'entrepreneuriat féminin évolue ces dernières années? Est-ce qu'on a plus de femmes entrepreneurs? Est-ce qu'elles peuvent vraiment diriger des grandes entreprises?
L'évolution est vraiment réelle en ce qui concerne les femmes entrepreneurs en RDC. Aujourd'hui, tant sur le plan économique et sur le plan juridique, parce qu'il y a quelques années, la femme mariée, par exemple, ne pouvait pas ouvrir un compte, ne pouvait pas exercer des activités commerciales sans l'autorisation, par exemple, de son mari. Aujourd'hui, la femme mariée, elle est libre avec le code de la famille révisé. La femme mariée peut exercer, peut entreprendre, peut avoir ses comptes, peut voyager sans demander cette autorisation. Nous avons aujourd'hui, au sein de notre Commission nationale des femmes entrepreneurs de la Fédération des entreprises du Congo, beaucoup de femmes à la tête des entreprises. Je donnerai l'exemple, par exemple, de la présidente de la Commission nationale des femmes entrepreneurs, Mme Mukemi, qui est une des vice-présidentes nationales de notre fédération, pour vous dire que vraiment, il y a une progression en ce qui concerne l'entrepreneuriat féminin.
Espérance Belao, l'on sait que les dames qui vivent en milieu rural ont énormément de difficultés à accéder à un compte bancaire, à avoir des prêts, à avoir des crédits, etc. Est-ce qu'il y a eu tout de même des progrès à ce niveau-là dans votre pays? Est-ce qu'elles ont plus de possibilités aujourd'hui ou est-ce que c'est encore très difficile pour elles?
Ça reste encore un peu difficile. C'est pourquoi moi-même, parce que je suis dans le secteur agroalimentaire, ça fait presque 15 ans que je travaille dans le monde rural. Je travaille avec ces petits producteurs et surtout les femmes. Moi-même, j'ai vu la pénibilité qu'il y a à travailler dans le secteur agricole dans notre pays et surtout l'accès au financement. Et ce qui m'a poussé à réfléchir sur des solutions qui pourraient permettre à cette couche de la population, surtout qui est dominée par les femmes dans le secteur agricole, pour mettre en place le mutuel que nous sommes en train de mettre en place, le mutuel communautaire de croissance dans le monde rural et exclusivement le MIFA dans zone urbaine et périurbaine exclusivement réservée aux femmes. Parce que cette couche de population qui représente la majorité de la population féminine de la RDC n'est pas éligible en ce qui concerne le système bancaire classique qui existe en RDC. Donc nous y travaillons. Par exemple, nos mutuelles commencent vraiment à prendre l'envol. C'est depuis 2021 que nous l'avons lancé officiellement. Et aujourd'hui, nous sommes quasiment dans presque 7 provinces et nous avons l'ambition d'atteindre le 26 provinces de la RDC.
Concrètement, ça fonctionne comment? Est-ce qu'elles doivent verser une cotisation? De quelle manière vous les soutenez au niveau financier à travers cette mutuelle?
La mutuelle est mise en place. Nous avons le parrainage de Afriland First Bank qui nous a accompagnés pour l'obtention de l'agrément au niveau de la Banque centrale. Et aujourd'hui, nous avons une autre banque d'appui qui a compris l'importance de cette mutuelle qui est la Rabobank, qui nous donne aussi des subventions pour mettre en place les mutuelles. Ce sont des banques de proximité qui sont autonomes. Et nous, nous venons avec une approche. Le mutuel, c'est vraiment pour la communauté et pour la réduction de la pauvreté et l'accès aux produits financiers. Mais nous disons à cette femme, personne ne pourra changer ta situation si ce n'est que toi-même. Et nous ne venons pas avec le don. La femme qui veut adhérer à la MIFA adhère à ce qu'on appelle l'épargne sociale. Elle paye le droit d'adhésion, elle accepte l'épargne sociale et elle participe à ce qu'on appelle le fonds de solidarité. Et on a deux types de membres actifs et de membres associés. Donc, nous visons d'abord l'épargne parce que nous nous disons le premier pas vers la richesse, c'est d'abord l'épargne. Et par là, nous ne donnons même pas un dollar à une femme si elle n'a pas suivi une formation en éducation finance. Au regard de l'importance qu'aujourd'hui et l'engouement des femmes autour de notre modèle, le gouvernement a compris et dote aujourd'hui les NIFA de subventions pour accompagner ces femmes.
Espérance Bellao, justement, vous êtes formatrice et vous parlez de formation financière. Donc là, c'est vraiment spécialisé dans le sens où, en fait, vous voudriez que ces femmes puissent être vraiment autonomes au niveau de la comptabilité de leurs affaires et le faire correctement. Est-ce que vous proposez justement des formations particulières en lien avec cela?
Absolument. Nous avons, au niveau de la Fédération des entreprises du Congo, dans notre commission des femmes entrepreneurs, nous avons un outil formidable, le programme Access. C'est un programme de l'ITC et c'est un programme régional. Et au niveau de la RDC, c'est la Fédération qui pilote ces programmes et l'exécution a été confiée à notre commission, dont je suis la formatrice superviseure de ces programmes. Nous avons des modules qui permettent aux femmes de savoir calculer le prix de revient, le coût de production, pour savoir comment mettre le bénéfice. Nous avons des programmes, des simples modèles de business plan, même d'autres femmes, ce qui est formidable. Avec notre programme, nous le dispensons dans les langues, les quatre langues nationales de la RDC. Ça veut dire même cette femme qui ne sait ni lire ni écrire au fin fond du village, quand nous y arrivons, nous demandons à nos formatrices, parce que nous en avons 140 à travers toute la République, et de parler la langue qui comprend notre cible pour lui permettre de mieux s'outiller pour la gestion de son business. Nous voulons créer des entreprises rentables et surtout pérennes.
Là, c'est vraiment une formation adaptée pour des femmes à la base. Est-ce que vous proposez une formation de suivi qui va faire que la femme, à un certain niveau, un niveau plus élevé, va aussi pouvoir continuer de bénéficier de certaines formations?
Absolument. Nous avons des suivis et des évaluations. Quand nous avons commencé, on n'avait pas de moyens. Nous avons fait cela avec nos propres moyens. On sait dans notre commission. Nous avons fait une première tournée nationale. Nous avons cotisé nous-mêmes le femme de la fédération pour atteindre le femme au travers de la République. Fort de cette expérience et au regard des résultats obtenus, nous avons eu une première subvention de la BAD qui nous a subventionné pour former les formatrices dans chaque province. Et au regard des résultats après l'évaluation, la BAD nous a accordé encore une subvention plus importante qui a permis de doter les matériels de transformation à 101 femmes. Nous avons sélectionné 10 femmes au travers de ce que nous on a appelé les top 10, ça veut dire les meilleures qui ont mis en pratique les recommandations de modules. Et ces femmes-là aujourd'hui sont dotées des matériels de transformation, sont très importantes la plupart de ces femmes. Ils avaient des business, mais ils n'étaient pas formalisés. Aujourd'hui, ils ont des entreprises formalisées et reconnues par l'État.
féminin de VOA Afrique. Une émission taillée sur mesure pour toi, à travers le regard des femmes et des jeunes.
Espérance Belaou, on connaît beaucoup de cas aussi où les femmes préfèrent ne pas être formalisées, malheureusement, parce qu'elles disent, pas seulement les femmes, qu'il y a trop de taxes et finalement ils ne s'en sortent pas. Est-ce qu'il y a un grand avantage à ce qu'elles soient vraiment formalisées?
Il y a des grands avantages parce qu'aujourd'hui, ce qui manque, c'est surtout l'information. Parce que la femme qui œuvre dans les secteurs informels, il vous dit « oui, je ne peux pas me formaliser ». Parce que d'abord, le femme, par exemple, le maman qui vend dans le marché, il vous dit « je n'ai pas le moyen ». Mais on lui dit « c'est que tu payes, c'est quand tu payes au service de l'État qui vient deux fois, t'es racketté, tu payes un dollar aujourd'hui, deux dollars ». Et si tu te formalises en payant une patente qui te coûte, par exemple, 15 dollars ou 20 dollars annuellement, tu gagnes par rapport à toutes ces tracasseries. Et aujourd'hui, nous apportons cette information. Vous savez, ce n'est pas seulement les femmes qui n'ont pas de moyens et qui ne comprennent pas l'importance de la formalisation. Il y a maintenant de moyens qui sont entrepreneurs, mais ils refusent cela par rapport aux tracasseries. Et justement, ça, je rebondis, c'est ce qui est le rôle de notre fédération. Notre fédération joue un rôle très important auprès du gouvernement pour justement réduire les taxes et les impôts. D'ailleurs, nous nous sommes en train de plaider pour la création d'un guichet unique de paiement des taxes et impôts. Et ça sera dans un canal bien déterminé. Et nous, aujourd'hui, nous disons à l'État, vous avez à gagner, à enlever toutes ces taxes et tracasseries pour contrôler justement le flux de toutes ces entreprises qui seront formelles.
Donc, au sein de vos divers syndicats, associations, coopératives, on est dans la dynamique des femmes qui ont beaucoup d'expérience et qui sont là pour soutenir celles qui n'en ont pas du tout.
Exactement. Et aujourd'hui, c'est le rôle au sein de la Commission nationale de femmes entrepreneurs, c'est le rôle même au sein de notre mutuelle. Vous savez, au sein de notre mutuelle, nous arrivons à expliquer même à la maman qui a comme fonds de commerce 10 dollars pour lui dire tu as intérêt à venir ouvrir ton compte bancaire parce qu'en mettant ton épargne, nous pouvons t'accompagner parce que tu seras identifié et tu pourras terminer avec nous. Donc, il faut justement que cette femme ait la formation, avoir les outils justement pour venir et comprendre l'importance pour cheminer. Et croyez-moi, une fois qu'ils ont compris, elles viennent.
Espérance Belaou, on peut penser que finalement, d'après ce que vous dites, il y aurait peut-être de plus en plus de femmes qui vont même se syndiquer, en plus de la mutualisation, des coopératives, c'est ce qui va vraiment faire leur force et faire à ce qu'elles puissent avoir une vie décente en ayant un business, c'est ça?
Exactement. Nous disons aux femmes, j'ai l'habitude de le dire pour conclure ma formation, nous avons un module qui parle de culture associative. J'ai dit aux femmes à la fin, seules vous êtes invisibles, mais ensemble nous sommes invisibles. Ensemble, nous pouvons porter notre voix et nous serons attendus. C'est en mutualisant nos efforts que nous allons nous soutenir et relever ceux qui sont aujourd'hui plus faibles et demain deviendront plus forts.
Dans le monde rural, on sait qu'il y a également des petites coopératives ici et là, groupes de femmes, de villages et autres qui peuvent s'organiser entre elles. Est-ce que c'est un modèle qui fonctionne bien et est-ce que c'est un modèle qui leur permettrait éventuellement d'avoir plus accès à la terre?
C'est vraiment un modèle que moi-même j'expérimente. Je parle ici de mon propre modèle que j'ai mis en place. Avant, moi, je cultivais toute seule, je produisais toute seule, je transformais toute seule, je transportais toute seule. J'ai rencontré des difficultés, je suis tombée. Et aujourd'hui, on ne peut pas se retrouver sur toute la chaîne de valeur, sur le maillon de l'échelle. Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, j'ai mis en place des coopératives avec certains bailleurs de fonds qui nous ont accompagnés, tels que la FAO, tels que la l'USAID, tels que la SNV. Pas mal de bailleurs nous ont accompagnés dans deux villages. Nous avons mis des coopératives. Aujourd'hui, ces coopératives, ces femmes produisent, mon entreprise achète leur production dans leur lieu de travail et nous remettons la commercialisation. Et l'avantage avec ça, cette maman qui travaille dans le village, on lui enlève toute cette charge d'amener son produit. D'abord, la difficulté de transformer, la difficulté de trouver les transports, la difficulté d'acheminer vers le point de stockage et de chercher le marché. Ça, c'est le premier avantage. Et aujourd'hui, ces femmes et ces hommes, en étant ensemble au sein d'une coopérative, on sait leur trouver des espaces, on sait leur mener le plaidoyer auprès des institutions gouvernementales pour avoir l'accès à la terre. Parce que vous savez, l'accès à la terre, et surtout dans le monde rural chez nous, elle est très compliquée parce que l'héritage de la terre, il est masculin. Les femmes n'ont pas accès à la terre. Donc aujourd'hui, en mutualisant, et ça va travailler de plus en plus ensemble pour, et de façon pérenne sur des étendues des terres. Et sur le plan juridique, il y a de plus en plus de projets et de progrès qui se font pour justement permettre l'accès à la terre aux femmes.
L'on sait que la majorité des femmes en RDC, hein, comme ailleurs dans beaucoup de pays en Afrique également, travaillent dans l'informel et puis surtout ce qu'on appelle l'activité de subsistance. C'est-à-dire qu'elles peuvent payer l'école à leurs enfants, la nourriture, etc., les petites choses de base comme ça, mais ça ne va pas plus loin. Comment faire pour les faire passer à une activité qui va leur rapporter un revenu, qui va leur faire dégager un bénéfice et qui va leur permettre d'évoluer vraiment socialement et de faire évoluer la société?
Je peux vous donner juste un success story. Ce n'est pas aussi compliqué que cela si vous donnez l'information et l'information à la femme. Une femme, une fois, elle est venue nous voir au niveau de la MIFA. Elle voulait bien adhérer à la MIFA pour être membre actif, c'est 22 dollars. Cette femme me dit que je ne peux pas. Je dis, combien tu gagnes? Elle me dit, je gagne deux fois 2 dollars de bénéfice, 1 dollar, mais juste pour la nourriture des enfants. Je lui ai dit, pour quitter ta situation, il n'y a que toi pour changer la donne. Et ça s'accompagne par un sacrifice. Rentre à la maison, c'est à toi de prendre la décision, ce n'est pas moi. Un jour est venu, elle s'est retrouvée, elle ne croyait pas, elle avait 50 dollars dans son compte chez nous. Et aujourd'hui, cette femme qui était à 15 dollars de fonds de commerce, elle est en train d'arriver à 200 dollars. Ça prend du temps parce que la mentalité de tendre la main est là dans nos têtes, mais je dis, il faut arrêter à un moment donné et soi-même changer la donne.
Pour parvenir à une agriculture, on va dire, industrialisée d'une certaine manière, hein, pour passer de l'agriculture traditionnelle à une agriculture beaucoup plus développée, afin de répondre, hein, comme tout le monde le dit, à la demande même du pays, de la République démocratique du Congo, pour avoir vraiment des activités qui sont mécanisées, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'on arrive aujourd'hui à avoir tout ce qui est nécessaire pour un peu développer cette agriculture sur une plus grande échelle?
Effectivement, Nathalie, c'est qu'on peut dire qu'il y a aussi la volonté politique de changer les choses. La volonté politique de changer les choses, c'est dans le sens que le gouvernement doit avoir une politique agricole qui permettrait justement de donner les grandes lignes chez nous, c'est de l'agriculture de type familial. 52% de la population congolaise est composée de femmes. Et dans ces 52%, plus de 60% vivent dans le monde rural. Et c'est ce monde-là qui nourrit les grandes villes. Et si aujourd'hui le gouvernement optait pour une politique agricole adéquate avec le moyen qu'il faille, en y intéressant les différents acteurs, je pense que la RDC peut justement, comme on dit, peut-être demain, les greniers de l'Afrique. Mais si on nous impose des politiques qui viennent je ne sais pas d'où et qui sont en inadéquation totale avec la réalité, nous resterons dans cette agriculture de subsistance.
Espérance Belaou, alors quels sont les plus grands défis à relever dans l'agroalimentaire? Est-ce qu'il y a des défis particuliers, des manques en particulier dans toute la chaîne des valeurs justement?
Aujourd'hui, pour développer l'agriculture, comme vous l'avez dit, on ne peut pas développer l'agriculture avec la houe. Nous devons mécaniser notre agriculture. Ça, c'est la première chose. Qui dit mécanisation appelle aux grands travaux, par exemple, des infrastructures. La plupart de nos villages n'ont pas des routes. Ça, c'est un gros, gros problème pour l'évacuation de nos produits. Deuxièmement, il y a le problème de l'accès à l'énergie. Comment transformer? Il y a l'accès à l'énergie. Et trois, il y a des défis tels que aussi tout ce qui est l'assainissement, justement, des climats d'État. Après, tout ce qui est moins j'appelle ça deux fois fracatérie, parce que je donne un exemple, vous êtes à plus ou moins 250 km de Kinshasa pour atteindre le centre de Kinshasa, de femmes rurales qui doivent vendre, qui doivent payer soi-disant des taxes, 6-7 taxes sur la route. Quelle gagnera cette maman-là? Ça, ce sont des fracatéries. Donc voilà un peu les défis. Aujourd'hui, le gouvernement, s'il mettait une politique adéquate par rapport à tous ces problèmes, nous arriverons à rendre notre agriculture attractive et on va limiter cet exode rural vers les grandes villes. Je suis vraiment dans le 100% consommant congolais. Nous avons tout ce qu'il nous faut. On dit plus de 80 millions de terres arables, tout ceci, mais rendons cela réel en y travaillant et en consommant congolais.
Espérance Belaou, vous travaillez en particulier hein, dans l'agriculture, la transformation et notamment le manioc. Est-ce que vous pourriez nous dire un mot justement sur la manière dont se déroule ce type de culture?
Aujourd'hui, le manioc est une opportunité réelle pour notre pays. D'ailleurs, j'ai fait moi-même partie du comité de pilotage d'un grand programme que le chef d'État veut lancer sur la farine panifiable de manioc. La farine panifiable de manioc peut compenser, on ne peut pas dire à 100%, mais à plus de 30% la farine de blé dans la fabrication de pain. Et beaucoup de pays africains s'y mettent. Aujourd'hui, nous nous poussons au niveau de la RDC pour qu'on arrive à légiférer sur l'incorporation de la farine panifiable dans la production de pain. Si cela se faisait, qu'est-ce que ça peut avoir comme retombée au niveau de nos producteurs et au niveau du monde rural? Parce que le manioc, c'est la première culture en RDC et elle est cultivée dans toutes les 26 provinces de la RDC. Donc nous travaillons là-dessus et nous espérons y arriver.
Mais alors, ce qui implique encore le développement des cultures de manioc, c'est-à-dire plus de champs, plus d'espace, plus de travailleurs agricoles, donc logiquement, c'est porteur d'emplois. Ça peut présenter une ascension économique.
Exactement. Et moi, je ne pense pas que le secteur minier, c'est ce qui va permettre le développement de la RDC. Seul le secteur agricole peut entraîner un développement inclusif dans notre pays. Aujourd'hui, la culture de manioc peut être cet élément catalyseur pour notre agriculture.
Espérance Belaou, si l'on se penche un petit peu sur la question des sols, la qualité des sols, on a besoin effectivement de sols fertiles à toute période de l'année. Est-ce que l'on gère bien cette qualité du sol afin d'avoir de bons rendements ou est-ce qu'il y a encore de gros problèmes à régler dans votre pays, en tout cas dans certaines régions, notamment pour former les gens et permettre que l'agriculture, le sol soit bien géré?
Comme je vous l'avais dit, la majorité de cette couche de population réside dans le monde rural. Elle est analphabète. Et elle utilise les sols et cultive depuis des pratiques millénaires. Et aujourd'hui, nous apprenons, nous particulièrement au sein de la Colagric, donc j'encadre, je suis coordonnatrice aussi d'une association sans but lucratif, nous apprenons aux petits producteurs de préserver le sol dans lequel ils travaillent. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons remarqué? Le FAM ayant épuisé le sol autour du village, cherchent maintenant des terres arables de plus en plus loin de leur village et dans de forêts. Et qui les expose à ce moment-là à de dangers. Et nous demandons aujourd'hui, nous donnons de nouvelles pratiques culturelles aux paysans. Nous demandons par exemple aujourd'hui aux femmes, pour garder le même sol fertile, faites par exemple des cultures associées. Associez les maniocs avec des légumineuses. Parce qu'à ce moment-là, les légumineuses permettent de nourrir le sol. Donc il y a de bonnes pratiques culturelles qu'il faut apprendre à cette population qui a utilisé l'agriculture surbrûlée, d'apprendre qu'il y a d'autres nouvelles. Parce qu'aujourd'hui, les engrais chimiques épuisent les sols. Il y a d'autres formules qu'on peut travailler aujourd'hui et garder ces sols-là productifs et n'est pas allé cultiver sur des étendues d'étendues. Quoique aujourd'hui, la RDC n'a pas vraiment le problème des étendues du sol. On a encore des terres qui sont non exploitées. Sur plus ou moins les 80 millions d'hectares, il n'y a que 10% qui est exploité. Donc nous avons encore ces terres-là. Mais là où ils sont cultivés, nous inculquons à nos mamans de changer de méthode culturelle pour garder leur sol fertile autour de leur village que d'aller loin pour aller chercher des terres fertiles.
Espérance Belaou, un grand merci pour toutes ces précisions, hein, toutes ces informations sur l'agriculture, hein, l'entrepreneuriat des femmes et des jeunes dans votre pays, dans votre beau et grand pays, la République démocratique du Congo. Je rappelle que vous êtes chef d'entreprise agroalimentaire, que vous êtes entre autres présidente du conseil d'administration MC2 Moufa RDC. On vous dit à très bientôt et bon courage.
Merci beaucoup Nathalie et à la prochaine.
Le monde au féminin, c'est tous les mardis et samedis à 19h05, temps universel. C'était Nathalie Barge avec vous. À bientôt et bon courage.
Arrête.